Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
J'aimerais, avec la grâce du Seigneur, que nous prenions en considération deux passages de l'Écriture sainte. Et nous allons donc ouvrir notre première lecture dans Jérémie, chapitre 12, verset 13. Alors, il s'agit du peuple d'Israël. C'est une appréciation de Dieu donnée par le prophète Jérémie, inspiré par le Seigneur. Et au verset 13, Jérémie 12, 13, voilà ce que Dieu dit et constate. « Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. » Nous allons voir de suite la deuxième lecture et nous y reviendrons dans le cours de notre méditation. Alors, c'est un grand classique. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. On pourrait presque le restituer de mémoire. Enfin, les premières lignes en tous les cas. 1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est Paul qui s'exprime parce qu'il a compris quelque chose, Paul. Et ce qu'il a compris, il va nous l'enseigner ce matin en tous les cas. Il le transmet à travers tous les temps, toutes les générations, toutes les églises. Et voilà ce qu'il dit, verset 1er, 1 Corinthiens 13, verset 1er. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Je reviens sur la précédente lecture, constatation de fait et message apporté donc au peuple d'Israël, peuple de Dieu, peuple élu, peuple qui connaît, peuple qui sait, mais qui peut-être est complètement confondu pour une raison que nous allons voir d'ici quelques instants. Et Dieu dit ceci, ils ont semé du froment, ils ont semé du blé, ils ont semé ce qui est la nourriture des hommes indispensable et qui fait le pain. Ils ont semé du froment, c'est-à-dire le meilleur. Et voilà que, constatation faite, il récolte des épines. C'est un petit peu la parabole que Jésus nous laisse dans Matthieu chapitre 13, quand il est dit « Mais un ennemi est venu de nuit, et avec le bon grain, il a semé de l'ivraie. » Et voilà que les serviteurs, la saison arrivant, vont constater que il y a eu la maldonne, qu'il y a eu un problème qui s'est produit, sans pouvoir l'expliquer, mais il y a de l'ivraie avec le grain. Et ils sont prêts à mettre la main, avec vivacité, avec peut-être même sont-ils outrés, parce qu'ils savent ce qu'ils ont semé, et ils récoltent quelque chose qui les étonne. Et le maître va leur dire, calmez-vous, hein, c'est pas la peine, moi je sais. Je sais ce qui s'est passé. Je vous ai bien fourni du froment, je vous ai bien fourni du bon blé, le meilleur, et puis voilà. Alors Jésus se contentera dans la parabole de dire « C'est un ennemi qui a fait cela, ne touchez à rien. C'est un ennemi, c'est pas votre affaire, ce n'est pas votre rôle. » Alors, ils ont semé du froment, ils moissonnent des épines. Quelle surprise pour un cultivateur, on peut se poser des questions. Et puis la phrase qui vient après, elle est très intéressante parce qu'elle va être au cœur même de nos considérations ce matin. Ils se sont fatigués. Alors, si on se fatigue pour un résultat, d'accord, un résultat positif, quelque chose qui valorise, une bénédiction, naturellement. Ils se sont fatigués, mais il est ajouté cette suite, mais sans profit. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour rien. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de profit, il n'y a rien du tout à en tirer de tout cela. Alors, pourquoi se sont-ils fatigués? Eh bien, c'est précisément justement ce que nous allons voir maintenant. J'aimerais vous attirer sur un regard réaliste de notre monde moderne. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Même dans ces derniers temps, même dans ces derniers 50 dernières années, beaucoup de choses ont changé dans notre monde, on est propulsé. Quelquefois, on se dit, mais ça va un peu vite. Alors, on comprend peut-être que pour les personnes d'un certain âge, voilà, ils suivent. Et puis, quelquefois d'autres aussi. Moi, je pense à tous ceux qui sont peut-être en déficit, qui n'ont pas les capacités des élites, etc., etc. Et ils suivent derrière, ils se disent, mais voilà, qu'est-ce que l'on peut faire dans tout cela? Qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, c'est une vision réaliste que j'aimerais vous apporter. Je pense que vous serez d'accord. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi sortir de l'église tout à l'heure. Hein. Enfin, je pense que ça va aller. Je dois pouvoir sauver ma vie. Alors, je dis tout de suite que la vie des hommes d'aujourd'hui est impactée par ce que l'on peut appeler, n'ayez pas peur des mots, hein, le dictat de la performance ou la dictature de la performance. Vous allez entendre ce mot qui va revenir. Dans la vie professionnelle, et vous le savez, vous qui travaillez, j'ai entendu encore brièvement une histoire ce matin où c'est terrible ce qui peut arriver dans les entreprises pour faire travailler les gens. Hein. Vous le savez. Dans la vie scolaire, puisque maintenant vous savez qu'il est décrété par l'éducation nationale qu'il va y avoir des évaluations même avant la maternelle pour les enfants. Vous avez entendu parler de ça? Voilà. Maintenant les enfants vont passer le bac à 8 ans, 10 ans, etc. Évaluation, c'est quand même assez surprenant, hein. Dans la vie affective, alors là, c'est de la surenchère, hein. Performance dans la vie affective, dans la vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on en appelle amour? On va le revoir tout à l'heure à la fin. Qu'est-ce que l'on appelle à celui qui fera le plus de performances, de conquêtes, et qui, ira chercher des choses originales, il faut bien le dire. Il y a des choses qui sont originales dans notre monde. Ça a toujours existé, mais là, aujourd'hui, ça apparaît au grand jour. Dans la vie sportive, là, c'était les Jeux Olympiques, hein, dernièrement. Vous en avez entendu parler, non? Ils n'en ont pas trop parlé, hein. Mais toujours est-il que c'est à celui qui sera, naturellement, le champion, le vainqueur, la vie sportive. Ah oui, ça me fait penser à une chose. Vous permettez que je vous raconte tout de suite une histoire? Vous me le reprocherez pas. Je voudrais vous parler des prouesses et des performances sportives. Et je vais prendre un exemple, celui de notre grand-père et de notre grand-père, arrière, 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 il s'appelait Adam et Ève. Oui, c'était les sportifs. Et ils étaient naturellement dans le jardin d'Éden, tout était bien, parfait. Et puis par un bel après-midi d'été, ou je ne sais pas, de printemps, Ève va s'approcher d'Adam et lui demande une petite promenade en barque sur le fleuve Euphrate. Je raconte pas d'histoire, hein, c'est dans la Genèse, hein, tout ça. Hein. Sur le fleuve, hein, tout proche. Alors, le couple va prendre un petit pique-nique, et puis ils vont... Le couple est heureux, ils naviguent tranquillement. Et tout à coup, Ève a une idée qui lui vient tout simplement en tête et propose à Adam de faire une compétition de vitesse sur l'eau. Elle lui dit, écoute, ça serait bien qu'on ait un petit peu plus de... Voilà, de vitesse, hein, on va pouvoir avoir les cheveux ébouriffés. Enfin, il n'y avait pas de moteur à l'époque, mais donc toujours est-il que, voilà. Alors, le brave Adam, voulant épater Ève, parce que c'est ça les messieurs, vous savez, quand, hein, messieurs, vous épatez toujours votre épouse. Alors, le brave Adam, voulant épater Ève, remonte ses manches, je ne sais pas comment il était sa chemise, et puis il saisit les rames de toute force et accélère, et il accélère. Mais ça ne va pas encore assez vite pour Ève. Ah oui, c'est encore trop peu, ça ne va pas assez vite. Et celle-ci, tout excitée, parce que ça commence déjà à bouger dans la barque, eh bien, encourage et crie à Adam, « Rame, 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 Adam, plus vite, rame, Adam !» Et c'est ainsi que l'on trouve les premières traces de l'islam dans le jardin d'Éden. Ramadan. Excusez-moi. Kader, ça va? Comment voulez-vous que je sois sérieux? Vous me faites rire. À chaque fois que je prends la parole, c'est toujours la même chose. Ah oui, Ramadan. Ben voilà. Et je voudrais vous dire, parce que ça va devenir sérieux là maintenant. Hein. C'est la grande compétition des religions. on en entend parler encore aujourd'hui, qui apparaît sur le dictat de la performance, de la concurrence et de tout, et là, ouvre la porte à toutes les rivalités. Enfin, excusez-moi pour l'histoire, j'espère que vous allez pouvoir, voilà. Mais c'est ça. Et là-dessus, on va être sérieux. Parce qu'il y a quand même quelque chose à dire. Eh oui, il y a quelque chose à dire. Alors, on a parlé de performance professionnelle, sportive, affective, mais dans la vie de l'Église, peut-être que nous pouvons en dire quelques mots. Ça serait intéressant, d'ailleurs je vais vous parler que de ça. La vie de l'Église, parce que je crois qu'il y a cette émulation, on cherche toujours plus et toujours mieux. Alors pour la gloire de Dieu, je suis d'accord. On donne le meilleur, hein, le meilleur pour toi, Seigneur. Mais le problème n'est pas chez le Seigneur, il n'est pas chez Dieu, il est souvent chez les chrétiens, chez nous. Et nous nous apercevons que, quelque part, eh bien, c'est une course au record comme le monde. Eh oui, comme dans le monde. Obsession de la réussite, parce que si je ne réussis pas, je ne suis rien. Enfin, à mes yeux et peut-être aux yeux des autres, mais quelquefois à mes propres yeux. Et on s'aperçoit qu'il y a comme un état d'esprit, comme une imprégnation subtile, voire même complexante, concurrentielle, performance de la comparaison. Lui, il est ceci, moi, je suis que ça. Et on essaie de regarder de droite et de gauche avec la vision élargie que nous avons à travers les médias et puis tous les moyens de savoir en instant T tout ce qui se passe dans le monde. Alors je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'être malheureux. Hein. Surtout quand on a un esprit de concurrence ou un esprit de rivalité. Et nous nous apercevons que tout cela, eh bien, est contraire à ce que Dieu attend. Écoutez, ils ont semé du froment et ils ont récolté des épines. Et ils se sont fatigués, épuisés, exténués, sans profit. Alors, on va essayer de prendre en considération, parce que, toute dénomination confondue, cette quête au dénombrement. Dénombrement de membres, une église très grande, ou de baptême, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et on fait des comptes. Dans 8 jours, on va avoir le rapport moral de l'année 2015 en Assemblée Générale. Alors, on ne s'étale pas là-dessus. Hein. D'accord. Et je voudrais dire en deuxième plan, après avoir introduit notre sujet, j'aimerais que, pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours, j'aimerais que ce message que nous allons partager soit un message de consolation aux petites églises. Eh oui, il y a des grandes églises, Dieu soit béni, et il y a des toutes petites églises. Et un message de consolation pour les petites églises et à leurs pasteurs, et aux frères qui servent, et à ceux-là qui sont toujours fidèles, et qui demeurent fidèles même s'ils ne voient rien du tout. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Parce qu'il y a toujours derrière ce genre d'embarras, l'obsession du résultat qui produit ses effets, et qui produit leurs effets négatifs. Mais c'est vrai que quand on voit des choses, on est encouragé. Quand on voit le ciel ouvert, on est encouragé, c'est normal, mais quand vous voyez rien, eh bien je voudrais quand même dire que le Seigneur est toujours là, et que vous n'avez pas perdu la foi. Votre fidélité est là pour en donner la preuve, que quelquefois vous pleurez, vous soupirez, mais que le Seigneur est toujours là. Résultat ou pas, le Seigneur est toujours présent. Quoi qu'il en soit, même les effets négatifs, et ce qui amène dans certains cas, tout simplement, l'épuisement moral des chrétiens, spirituel, et parfois la confusion. Je ne suis plus à ma place, je ne suis pas à ma place. Qu'est-ce que j'irai faire dans une réunion de prière parce que on prie, on pleure devant le Seigneur, et puis il se passe rien. Qu'est-ce que j'irai faire dans un culte? Peut-être j'ai autre chose, parce que tout cela, ça me fatigue et me lasse. Eh oui, épuisement moral et spirituel. Et il n'y a pas que des chrétiens, mais aussi des pasteurs, des frères anciens, et qui peuvent baisser les bras avec ce genre de choses. Est-ce que j'ose? Mais quelquefois, il y a l'exploitation d'ennemis pernicieux qui démoralise le peuple de Dieu. Faut avoir les yeux ouverts, hein. Faut être perspicace. En ajoutant ceci, que, et là, attention parole, c'est que si l'Église n'est pas une entreprise, et ça on le sait et on y veille, elle doit être entreprenante. Voyez la nuance? Elle doit être entreprenante, mais à une seule condition, mes frères et sœurs, et c'est la clé de voûte de notre réflexion, dans la mesure où elle est conduite par le Saint-Esprit. On peut être conduit en dehors du Saint-Esprit, et peut être conduit par le Saint-Esprit. Et tout est fondé sur cette recherche de la conduite du Saint-Esprit, que je vois ou que je ne vois pas, que je sens ou que je ne ressens pas, que ceci ou cela, en tous les cas, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est véritablement le nec plus ultra que Dieu nous a donné, c'est la conduite de l'Esprit dans la vie d'une église, dans l'évangélisation et dans tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons entreprendre, conduite par l'Esprit. Alors j'ajoute qu'au berger des âmes, à tout niveau, à tous les chrétiens conséquents, il y a ce proverbe au chapitre 27 et au verset 23 qui nous dit ceci, et je le rappelle, hein, à tous les chrétiens conséquents, où la parole nous dit « Connais tes brebis », vous le trouverez dans votre « Connais tes brebis » et il ne nous est pas dit « Compte tes brebis ». D'accord ? Subtilité. Il nous est dit « Connais tes brebis » parce que compter, c'est une chose, et connaître, c'en est une autre. Et il y a une supériorité de ce que nous enseigne la Bible sur la connaissance, la vraie connaissance. Et de faire tout simplement de la comptabilité. Il est donc question maintenant de quantité et de qualité en question, qui se pose. Quantité et qualité. Par ailleurs, Jésus nous précise, par-delà finalement, eh bien, cette assertion dans Proverbe 27, par ailleurs, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 18, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux, trois, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Vous remarquerez que Jésus ne parle pas de vingt. Il ne parle pas de trente, de trois. Il ne parle pas de cent. Il ne parle pas de mille. Il parle juste de deux ou trois. Il s'agit des hommes. Il s'agit de la réunion autour de Jésus d'hommes. Et ça, c'est important. Mais, comme pour les trois poissons et les cinq pains, le Seigneur, si nous sommes conduits par lui, peut les multiplier à l'infini. Vous connaissez ? Eh oui, parce que c'est pas nous, c'est lui. C'est pas nous, c'est pas les talents d'un orateur, d'un prédicateur, c'est pas même celui qui aurait tous les dons, parce que Paul dit « j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes », eh bien, je ne suis rien. Tout le Seigneur est tout, nous ne sommes rien. Qui peut être suffisant pour ces choses, j'ajoute, hein, naturellement. Ça suffit, parce que ce qui est important, c'est sa présence au milieu de nous. C'est parce qu'il est là, tout simplement. Le Seigneur est là ce matin. Hein? Oui, on se rend compte les uns les autres et on est très heureux de se retrouver, n'est-ce pas? Ouh, qu'est-ce qu'on est heureux. Non, mais enfin, excusez-moi, mais bon. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est que ce qui nous réunit, c'est la présence du Seigneur. Il est là au milieu de nous. Celui qui rit, celui qui pleure, celui qui a le cœur gros, celui qui porte un fardeau énorme et qui est venu au culte ce matin et qui porte et qui est écrasé. Mais le Seigneur est là. Il est là pour toi. Il est là pour nous tous, naturellement. Mais nous avons tous des besoins différents. Et nous voici au cœur de la performance des nombres et des chiffres. Soit une sorte de dénombrement. Alors on va dire deux mots là-dessus. Dénombrement. Ça vous rappelle quelque chose? Eh oui. Dénombrement, version moderne, hein, version d'aujourd'hui. Dans l'histoire biblique, il est question de quatre dénombrements que nous trouvons dans les diverses pages de la Bible. Et il est question donc de ces quatre dénombrements. Trois ont été ordonnés officiellement par Dieu. On va les citer brièvement. Trois ont été suscités par Dieu. Tu feras, dit Dieu à Moïse, deux fois. Et dans un autre temps, Dieu a aussi ordonné de faire le dénombrement. Quand il y avait dénombrement ordonné par Dieu, il y avait automatiquement rachat des personnes. Vous avez lu ça ? Hein, rachat des personnes. Et je voudrais vous dire, si on le met en parallèle avec l'Église, l'Église, ce sont des hommes et des frères, des hommes et des femmes qui ont été rachetés. Et le démembrement à ce moment-là est tout à fait biblique et divin. Hein. Parce que qu'est-ce que nous pouvons imaginer? Que une Église où il n'y a pas de racheté, c'est pour ça que la notion du salut est essentielle, de rédemption. Hein. Alors à ce moment-là, c'est une offense à Dieu. Parce que si on veut faire du nombre, on peut faire rentrer beaucoup de monde. Hein, et on a peut-être les moyens pour en faire rentrer des gens, ça c'est sûr. Mais si c'est pour faire du nombre, si c'est pour faire du chiffre, avec des hommes et des femmes qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas fait l'expérience de la repentance, qui n'ont pas finalement, eh bien, là, accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui ne sont pas transformés, changés, bien que ce soit sur le temps, hein, cette régénération, et qui ne sont pas reçus la vie de l'Esprit, y compris le baptême du Saint-Esprit, bien que ce soit pas une condition de salut. Mais une chose qui est certaine, c'est manquer à la volonté de Dieu qui rachète. Et là, dans le livre de l'Apocalypse, vous vous en souviendrez, je ne sais plus, ça doit être le chapitre 6 ou quelque chose comme ça, il nous est dit, tu as racheté par ton sang des hommes et des femmes, des tribus, des peuples, etc., etc. Tu les as rachetés par le sang. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'espèces sonnantes et trébuchantes, comme dans l'Ancien Testament, où il y avait une somme d'argent à donner pour tous les hommes qui avaient 20 ans et plus. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, au prix merveilleux du sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est cette notion que nous avons. Parce que si nous voulons du monde, eh bien, nous pouvons en avoir. Il y aura toujours des gens qui sont spécialisés pour attirer les gens, pour attirer. Mais s'il n'y a pas au cœur de tout cela la démarche de l'évangile qui sauve, l'évangile qui apporte le pardon, qui transforme les vies, et qu'il n'y a pas de résultat, ça ne sert à rien. On a semé du froment, parce que c'est l'évangile le froment, c'est le bon blé, hein, et on a récolté des épines. Et bonjour les divisions après. Bonjour les contestations. Bonjour les troubles dans l'Église. Je voudrais que nous soyons persuadés que ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de salut. Et heureusement, et nous l'avons entendu dans les louanges tout à l'heure, une chose qui est certaine, c'est que nous avons béni le Seigneur, son sacrifice, son sang, victime expiatoire. Et ça, c'est l'essentiel. Ne tombons pas dans toutes sortes de fatigues sans profit. Illusion d'avoir fait quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Parce que les choses se sauront, les choses se verront, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc Dieu a ordonné officiellement trois dénombrements lui-même avec rachat. Donc on le met en parallèle avec le Nouveau Testament, on sait ce que ça veut dire le rachat. Le premier dénombrement était à la sortie d'Égypte dans le pays de Sinaï. Première sortie. Il y a eu 40 ans plus tard un autre dénombrement avant de rentrer à Canaan. Il fallait bien faire la répartition. Il y a eu un autre, mais qui n'était pas le fait de Moïse, qui n'était pas le travail de Moïse, parce que c'était beaucoup plus tard, un troisième dénombrement au retour d'exil de Mésopotamie. Et là, les chiffres étaient un petit peu plus faibles. Hein. Et il y a eu un quatrième dénombrement à haut risque, imaginé par David, et un dénombrement qui a mal tourné. Connaissez l'histoire? Ouais, c'est bien, monsieur. Alors, un quatrième, donc, qui a mal tourné. Et, dans un texte, parce qu'il y a deux textes par rapport à cette affaire, dans un texte, il nous est dit que Satan excita David. Satan excita le peuple d'Israël pour que David fasse un dénombrement. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Chez David, David c'est bien. David c'est l'homme de Dieu, c'est l'ami de Dieu. Il nous a surpris quelquefois, David. On se dit, mais comment il peut faire de telles erreurs? Non, David avait quelque chose au fond de son cœur. Il était déjà roi. Il avait déjà tout, David. Il y avait une recherche de prestige à une certaine période de sa vie. De puissance, prestige, puissante, égale orgueil. Et moi, j'ajoute péché d'orgueil. Vous savez que l'orgueil spirituel, on ne sait pas où il se niche. Excusez-moi, hein. Mais quelquefois, il pense tellement être enveloppé de modestie et d'humilité. Mais Paul l'avait vu, hein, quand il écrira aux Colossiens. Et à la fin du chapitre 2, quand il est dit, mais tout ça, ce sont des apparences, finalement, d'humilité. Mais il n'en est rien du tout, hein. Il avait décelé ça, Paul. Et quelquefois, je crois que, on le voit chez les pharisiens. Toujours avec une mine, compassée. Mais derrière, c'était des orgueilleux, c'était des gens qui étaient intraitables, qui jugeaient les autres. C'était quelque chose d'épouvantable. D'ailleurs, Jésus leur a donné leur fait à plusieurs reprises. Ils n'étaient pas très très contents, mais enfin bon, il avait raison, hein, Seigneur, ça c'est sûr. Parce que quelquefois, on ne sait pas toujours de quoi nous sommes animés. Jésus le dira, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, il disait ça à ses disciples. Bon, ils ont dû prendre la leçon, naturellement. Hein. Et David, à ce moment-là, comme il a une faute grave aux conséquences dramatiques, puisque tu as fait ça, puisqu'il n'y a pas eu de rachat, puisque tu voulais compter ton peuple, les bons, les mauvais, hein, tout le ramassis du peuple, etc., etc., parce que c'est écrit aussi. Hein. Je te propose, David, 3 ans de famine sur tout Israël. Je te propose 3 mois vaincus par tes ennemis, ou je te propose 3 jours de peste. David a choisi le moindre, hein, parce que c'était pas le peuple qui avait péché, c'était lui qui avait péché. Parce qu'il avait eu une bouffée d'oxygène, là, malsain, hein, vicié. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas appeler l'histoire là de David une contre-performance ? Il cherchait la performance et il a eu le contraire. Il cherchait la bénédiction de Dieu pour lui. Hein, et il a eu une contre-bénédiction qui a coûté très cher, mais vraiment très cher. Hein. Alors le résultat que l'on peut donner chez David, étonnant, mais c'est que le résultat était le suivant, c'était son ambition charnelle. Parce que tout à l'heure je vous ai parlé de l'esprit. Alors il y a deux positions, deux positionnements, il y a le charnel et le spirituel. Et ne faisons pas les erreurs de l'histoire, ou ne reproduisons pas les erreurs de l'histoire, parce qu'il y en a eu. J'ai cité David parce que c'était lié au dénombrement, mais il y en a eu. Quantité compte, tes brebis. Quantité, tu comptes. Tu fais les comptes, voilà. Qualité, connais tes brebis. C'est autre chose. Ouais, connaître, c'est autre chose que de compter. On peut toujours avoir le crayon de bois sur l'oreille et puis le tablier bleu et hein, faire des comptes et noircir des pages blanches. Mais ça, ça sert à quoi? Ils ont semé du froment et ils ont récolté des épines. Ils se sont fatigués en vain, avec toute la peine de cette vanité qui a mal tourné pour Israël à ce moment-là. Quantité, compte, connaît, c'est autre chose. On donnera l'explication, je la repousse un peu plus loin. Le troisième point dans ce message, c'est les problèmes de toujours, que j'appellerai le problème d'aujourd'hui, quand la Bible résonne dans un de ses livres, « Vanité des vanités et poursuite du vent ». Qu'est-ce que nous poursuivons ? Paul le dira, je ne cours pas comme courant battant l'air. Non, il faisait les choses d'une autre manière. Et derrière, il y a cette recherche charnelle d'être, de paraître peut-être. Hein. Et quelquefois, dans nos milieux chrétiens, eh bien, il peut y avoir cette recherche de médaille d'or de l'olympisme. Voilà, il y a 3 places, hein. Médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. C'est du bronze, hein, oui. Oui, oui. Oh. Vous voyez que je m'intéresse véritablement à la question, mais bon, toujours est-il que, alors il y a celui qui est en haut et puis ceux qui sont de chaque côté, avec naturellement quelques différences. Ne nous prenons pas la tête, et je parle d'une manière assez vulgaire, hein, mais ne prenons pas la tête avec le vodétariat évangélique. Ouais. Avec la popularité, être vu, applaudi, reconnu. Être people, comme on dit en anglais. Ouais. Parce que là, je pense qu'il y a véritablement, eh bien, un risque que nous courons, c'est que nous allons nous fatiguer sans profit, et que Dieu nous a donné le meilleur, le froment, le blé, le bon blé, et que là nous allons voir pousser des épines. Si nous sortons du cadre spirituel, il y a déjà des églises, de par le temps et dans les temps, qui ont véritablement fait les frais de l'opération. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient tombés. Ils ne se sont pas aperçus que finalement le Seigneur n'était plus là. Ils ne se sont pas aperçus qu'il n'y avait plus rien, sinon de la liturgie, sinon une tradition, sinon toutes sortes de choses. Mais la liturgie et la tradition ne gênera jamais personne, vous comprenez, parce qu'elle endort. Mais nous voulons être réveillés. C'est ça la différence. Réveillés par le Saint-Esprit, avec tout l'équipement que Dieu nous a donné, les dons, oui, mais avec les fruits, hein. Parce que vous biffez sur le mot don s'il n'y a pas les fruits, hein. C'est pour ça que vous avez remarqué avec moi qu'entre le chapitre 12 et le chapitre 14 de 1 Corinthiens, il y a chapitre 13. C'est logique, hein. J'ai fait un petit peu de comptabilité, vous avez vu, je me suis pas trompé. 12, 13, 14, hein, d'accord? Ben oui, il y a une raison, hein. Il y a une véritable raison, c'est que s'il n'y a pas le fruit au milieu des dons, et qui est sur la médaille d'or, puisque je vous ai donné le podium de l'olympisme, et le chapitre 13, c'est la médaille d'or, et après, de tous les côtés, le 12 et le 14, eh bien, ce sont les médailles, soit de bronze ou d'argent, peu importe. Mais ça, si nous ratons la marche, je peux vous dire que nous serons laissés de côté. Eh oui. Parce que la thématique du nombre s'établit sur le principe exclusif que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui sauve, et c'est Dieu qui multiplie, et non l'activisme humain. Et non tous les efforts que nous pouvons faire si nous sommes en dehors. Ouais. L'activisme. Les hommes, avec une bonne volonté, avec un véritable désir. Mais faut être dans les clous, hein. Faut être sur les rails, mes frères et sœurs. Parce que faut savoir quelle est notre motivation profonde dans tout cela. Et je le rappelle, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui multiplie, c'est Dieu qui appelle. Et si nous avions besoin de nous le rappeler, je vous citais trois textes. Écoutez, dans Actes chapitre 2, verset 47, vous lisez, vous le retrouverez. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour. Qu'il y ait notre contribution, qu'il y ait notre participation, c'est ça, mais nous disparaissons. Nous disparaissons. Mais lui reste, parce que ce qui était resté de cette écriture, c'est que c'était le Seigneur. Et pourtant, ils étaient drôlement équipés, ils venaient juste de sortir de la Pentecôte, les dons spirituels, la puissance de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu et tout cela. Ils étaient tout frais, hein. À quelques jours de la Pentecôte, il avait reçu l'effusion. Extraordinaire. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans Actes chapitre 13 et verset 48, il nous est dit qu'à un moment donné, les païens glorifiaient la parole de Dieu et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Ceux qui étaient destinés, ils ont cru. Pas besoin d'efforts, pas besoin de persuasion, pas besoin de courir après des performances pour essayer de faire du nombre, etc., etc. Écoutez encore, dans Jean chapitre 6, verset 37, tous ceux, c'est Jésus qui parle, hein, dans Jean, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors. Tout simplement, celui qui vient à moi. Quelquefois, on a mis des gens dehors. Hein. Mais pourtant, la parole reste là. Tous ceux, tout simplement, que le Père me donne viendront à moi. Nous sommes tout simplement que des indications sur le chemin, mais rien d'autre. Rien d'autre. Et je pense que là, il ne faut pas se tromper dans notre raisonnement dans le service de Dieu. Parce que tout revient au Seigneur. Mais tout, absolument tout, naturellement, on le sait. J'aimerais savoir qu'en pense Dieu. Alors, je vous pose la question aussi, on va se la poser ensemble. De cette... ça me gêne de le dire, mais je vais le dire quand même. Aliénation normative. Oui, aliénation normative au modèle du monde. On parle de marketing, hein, ça c'est vraiment le on peut dire l'esprit et le carburant de notre monde moderne aujourd'hui, marketing. Faisons attention de ne pas nous tromper non plus. Hein. Faut faire attention à ça. Et si l'on parlait de l'état de santé des églises? Ah oui. Il y en a qui sont en forme, il y en a qui sont en pleine forme, il y en a qui sont véritablement vivantes, qui sont toniques, qui sont dynamiques. Et ça, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, je voudrais vous dire simplement un petit critère comme ça qui me vient à l'esprit au dernier moment. Une église, petite ou grande, peu importe. Mais quand elle est en bonne santé, il y a la paix au milieu d'elle. Il y a l'unité des chrétiens au milieu d'elle. Il y a l'amour fraternel. Je ne peux pas vous citer le contraire parce que vous le connaissez, vous l'avez vécu. Mais il y a ce zèle pour le Seigneur, un zèle intelligent, spirituel. Et je pense que ça, c'est un critère suffisant. Parce que c'est là où Dieu va envoyer sa bénédiction. Comme il est dit, sur l'éternité, l'huile de la bénédiction sur la barbe d'Aaron. Ça m'arrivera jamais, j'ai pas de barbe. Enfin, toujours est-il qu'on peut le partager quand même ensemble. Eh oui, état de santé. Alors, je voudrais simplement faire un rappel des faits et des conséquences. Rappel des faits, le constat de fait. Précipitation et activisme. C'est vrai que nous avons tous le sentiment que notre vie, elle est comptée, elle est limitée, hein, bon, les uns et les autres, etc. Et pourtant, On a tous connu ce proverbe qui nous dit ceci, « Celui qui agit avec précipitation ne court qu'à la disette. » Moi, je l'ai souvent entendu, ça, de quelqu'un. Hein? Et je pense que c'est un sage conseil. Oui, précipitation activiste, où on met beaucoup de projets en place, où on essaie de faire ceci, on essaie ceci et cela, etc. Oui, mais quand le Seigneur nous demande de précipiter, c'est autre chose. Mais si nous nous précipitons vers des chimères et toutes sortes de choses pour tenter, pour essayer, je ne sais pas. Et la conséquence, nous l'avons cité tout à l'heure, c'est la fatigue physique. C'est la fatigue morale et c'est la fatigue spirituelle qui engendre des épuisements. Il nous faut faire attention de ne pas trop charger les chrétiens, de ne pas les culpabiliser de faire ou de ne pas faire dans les deux sens. Parce que je sais qu'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, vous travaillez beaucoup. Ouais. On pourrait faire une réunion de prière, par exemple, tous les matins à 5 heures. Je suis sûr qu'il n'y aurait peut-être pas grand monde, hein. Mais ça s'est fait, ça se fait encore dans les églises. Ou faire toutes sortes de choses. Vous savez, on a pris une option il y a 4 ans, 5 ans, quand il a fait la décision. C'est de vous laisser dans votre repos, si je peux dire. Parce qu'on aurait pu faire autrement à Redon, hein. Alors imaginez-vous tous les samedis, pendant 2 ans, 2 ans et demi, pour construire l'église. Ben, vous savez, le Seigneur nous a donné tout ce qui était le meilleur. Et moi, je suis content. Parce qu'autrement, on peut toujours travailler, on peut toujours s'activer, on peut toujours faire toutes sortes de choses. Et quelquefois, le résultat, c'est beaucoup de fatigue et d'épuisement. Alors on est content, on a fait quelque chose. Mais que reste-t-il de l'essentiel de notre démarche, qui est notre vie spirituelle avant tout, hein? Et moi, j'en profite aussi pour remercier les frères et les sœurs qui travaillent aussi dans l'Église. Mais on fait à notre niveau, on fait à notre mesure, on fait selon nos possibilités. Et moi, je dis que c'est une bénédiction de Dieu. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand on est trop fatigué, on n'en peut plus, et on dit « Seigneur, moi maintenant c'est fini, je n'y reviens plus. » Et ça, faut faire attention. Mais justement, par rapport à ça, c'est quand même important, l'épuisement, et de ne pas faire marcher. Parce que dans le monde, on nous fait marcher, n'est-ce pas, hein? On nous fait courir. J'étais en entreprise pendant 16 ans, je peux vous dire que, à un moment donné, moi quand je me suis arrêté, j'étais dans la déprime, hein. Ah oui, parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois le pastorat et puis le reste. Hein. Dans Ésaïe, il nous est dit cette belle parole, c'est Dieu qui appelle le peuple d'Israël, parce que peut-être il y avait les caractéristiques d'un zèle qui n'était pas forcément fondé. Dieu dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos, mais ils ne l'ont pas voulu, pas moyen de les rattraper. Eh oui. Et ça, c'est quand même quelque chose. Dieu leur offrait le repos. Voici le lieu de repos. Notre lieu de repos, c'est pas seulement l'église, mais c'est notre communion avec le Seigneur. Et on a tellement de choses dans nos journées. On a tellement de préoccupations familiales et puis toutes sortes de soucis. Mais où est le lieu de repos dans cette affaire? On n'a même plus le temps de prier. Prier soi-même, prier en couple, prier. Parce que le lieu de repos, c'est notre communion. Et si nous voulons être forts, et si nous voulons être efficaces, et si nous voulons vivre dans l'esprit, il faut absolument aller dans ce lieu de repos. Monte dans ta chambre. Et prie ton Père qui est dans le secret, et lui voit, et c'est lui qui va te ressourcer. Trop de chrétiens, quelquefois, n'en veulent plus. Ils n'en peuvent plus. C'est bien dommage. C'est certainement oublié ce que Jésus nous dit à un moment donné, Évangile de Marc, chapitre 6, quand ses disciples, après avoir rempli admirablement la mission, les 70, et qui reviennent tout excités parce que Jésus leur a dit « Ressuscitez les morts ressuscitent, guérissez les malades et les malades guérissent, etc. etc. » Et ils reviennent tout excités, Jésus va leur casser un peu l'élan, il va leur dire « Non, non, venez à l'écart et reposez-vous un peu et mangez. » Il faut quelquefois bien que les choses puissent. C'est peut-être le contraire de d'autres prédications que vous avez déjà entendues, hein, mais pas de moi en tous les cas. Non. Parce que moi, je pense que notre vie, elle est faite tout autrement. Et c'est pas dans les gesticulations, dans les élucubrations, et puis multipliant ceci et cela, que l'on va véritablement trouver la paix, que l'on va trouver le Seigneur, et que on va pouvoir faire les choses. On en fait moins, mais on les fait mieux. Me semble-t-il. Venez à l'écart. Et vous savez que Dieu attend quelque chose de nous. Alors j'ai une petite variante à vous proposer. Il attend de son église, il attend des chrétiens, il attend des pasteurs, il attend des frères anciens. le fruit d'étendue. J'ai été chercher où ça? Le fruit d'étendue et non pas le fruit défendu de ce mal compulsif de la performance de son Église. Ça va? Le fruit détendu. Et je vais vous prouver avec des versets bibliques d'ici quelques instants. Et non pas le fruit défendu que nous connaissons dans le Jardin d'Éden. Mais ce fruit serait plutôt, eh bien, le mal compulsif de la performance. Il faut faire, on est vivant, alors il faut faire, il faut faire. Eh oui. Qui est souvent une source de rivalité entre les chrétiens et quelquefois entre les responsables. Entre les compétiteurs, et vous avez un exemple formidable, c'est Caïn et Abel. Ils avaient la même intention. Ils ont fait une démarche qui n'était pas une démarche, séculière, mais une démarche cultuelle. Offrir un holocauste, offrir des offrandes à Dieu. Ben, vous savez ce qui s'est passé? Il y en a un qui l'a fait dans l'esprit, et l'autre qui l'a fait selon la chair, pour plaire à Dieu, parce que c'est toujours le même dénominateur commun, plaire à Dieu. Et vous savez, ce qui est terrible, hein, c'est que celui qui était spirituel, il est mort. Et celui qui, finalement, a tué son frère, ben son esprit est toujours vivant. Et c'est lui qui a propagé, nous pourrions dire, cette vague d'homicide à travers toute l'humanité que nous voyons encore aujourd'hui qui s'accroît de plus en plus. Ouais. Un, la chair, l'autre, l'esprit. Mais Abel, il parle encore. Hein. Il nous parle à nous, naturellement. Alors, dans Hébreux, puisque nous étions parlé de fruits, dans Hébreux, chapitre 12, verset 11, il est donné cette parole qui, là aussi, nourrit notre réflexion. Alors, Hébreux, chapitre 12, et verset 11. Alors, voilà que je retrouve. Ah oui, je suis dans Corinthiens, c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais me resituer tout de suite. Alors, voilà. Il est simplement rappelé au chapitre 12. Chapitre 12 et verset 11. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés le fruit paisible de justice. C'est sur la discipline de Dieu, discipline du Saint-Esprit sur les chrétiens, là, le sujet. Mais il nous est dit que, eh bien, ce que Dieu fait de nous et l'école, il nous est dit que ce fruit, il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. N'avons-nous pas parlé tout à l'heure du fruit détendu, un fruit paisible, et non pas un activiste, non pas une frénésie ou je ne sais quoi, hein? Parce que nous savons également que le comment pour y parvenir, c'est ce qui nous est dit aussi dans le texte, il est semé, ce fruit, il est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Pour nous, notre principal objectif, c'est rechercher la paix. Et dans la paix, le Seigneur envoiera des hommes qui sortiront d'un monde de guerre et il ne veut pas les faire rentrer dans une église où il y a la division et la guerre. C'est pas la peine, ils peuvent rester où ils sont. Si c'est pour trouver la même chose, et encore, ça les fera critiquer deux fois plus. C'est ça l'évangile, c'est ça votre Dieu? Non. Notre travail, il est là. C'est un fruit détendu, un fruit de repos, un fruit de grâce. Le fruit plus que les dons. Plus que les dons. Parce que s'ils ne sont pas là, ça ne sert à rien. Et puis, nous avons justement cette parole qui étaye notre propos. Dans Ésaïe chapitre 32, il est dit ceci. L'œuvre de la justice sera la paix. Oui. Et son fruit, le repos et la sécurité pour toujours. Il demeurera dans le séjour de la paix et dans des asiles tranquilles. Que l'Église soit un havre de paix, d'unité, et c'est là où nous allons pouvoir travailler, c'est là où nous travaillons. Nous avons connu dans cette Église des tempêtes, des ouragans il y a quelques années. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que tout de suite après, la conclusion, il y a eu des baptêmes. Il y a eu des gens qui sont venus, et particulièrement dans la forteresse de Redon. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, hein? Eh bien, moi, je dis que c'est la bénédiction de Dieu. Oui, dans la paix, dans cette tranquillité, ils auront pour demeure des maisons tranquilles. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui est important. Bon, l'histoire, c'est l'histoire. Mais une chose qui est certaine, c'est que faut laisser le Seigneur agir, parce que c'est lui qui a la main sur tout cela. performance par l'esprit et performance dans l'esprit. Et je termine sur cette notion. Où Jésus dira au peuple agité, au peuple aigre et amer d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur était éloigné de moi. On peut multiplier toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses. On peut chanter. Mais si notre cœur n'est plus avec le Seigneur, ça ne sert à rien. Ça peut faire de l'effet, j'en conviens. Mais c'est pas ça le but. Ouais. Ses lèvres, avec ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors j'aimerais simplement rappeler trois principes essentiels que Jésus nous enseigne, que nous avons tirés de notre leçon. D'abord, le premier, c'est que les premiers, pour Dieu, seront les derniers. Avec Dieu, les petits sont des grands. Ouais, certainement, et vice-versa. Et faisons attention, garde-nous de la prétention, de l'orgueil, de la réussite. La deuxième chose, deuxième point, c'est servir selon l'esprit, et ce n'est pas mes plans, mes méthodes, mes stratégies, ou autre chose, recettes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, parce que le contraire, c'est la chair. Et Paul s'évertue dans ses épîtres à mettre véritablement l'accent sur l'esprit, et ça, vous le savez. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est s'accepter tel que l'on est, sans finalement faire de comparaison. On pourrait dire, il y en a qui ont des petits ministères, des grands ministères. Je crois que, avec le temps, on a compris que c'est pas ça ce qui fera la différence. Non. Que l'on soit petit, soyons humbles, et gardons et considérons ce que nous avons en bénissant le Seigneur, comme si c'était le plus beau de tous les dons. Et puis, il y a un danger pour celui qui, finalement, a une aura, parce que lui, il peut redescendre. Hein. Eh oui. Faut faire attention à cela. Donc, c'est s'accepter tel que l'on est, avec les dons, avec la grâce que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire, c'est être soi-même. C'est pas vouloir être comme quelqu'un d'autre ou imiter quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens tout ça. Parce que nous sommes uniques les uns et les autres, Dieu nous a mis uniques. Et c'est vrai qu'on peut se réjouir de la diversité des dons, des ministères qui sont dans l'Église. Mais ça, on s'en réjouit naturellement. Mais quand je suis un évangélique et je voudrais être pasteur ou un pasteur qui voudrait être un évangéliste, alors à ce moment-là, ça va plus. C'est pas la peine de traficoter, excusez-moi, hein, parce que ça n'a pas de ressemblance. Si nous devons ressembler à quelqu'un, c'est ressembler à Jésus. Ça, on le sait, ce sont des lieux communs. Une autre chose, c'est que le dépassement de soi n'a d'autre sens, puisqu'on parlait de perfectionnisme et de stratégie, etc., que le dépassement de soi n'a d'autre sens que s'il s'accompagne du sacrifice de notre personne. Et ça, c'est tout l'enseignement que la Bible nous donne, le sacrifice de notre personne. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, mon serviteur, mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et là, nous avons des chances d'avancer. Mais si un but de soi-même, on se dit, c'est bien comme ça, c'est autre chose. Et l'antidote de la performance, c'est faire confiance à Dieu et non à nos capacités. Dans Ésaïe, il est dit, et ça nous calme un petit peu, vous le savez, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça, nous le savons, c'est vraiment un. Et puis également dans Ésaïe chapitre 26, il est dit, et ça c'est l'ultime résultat qui conclut, c'est une divine constatation dans l'instant et dans le temps à venir. Et tu nous donnes la paix, dit le prophète, et tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et ça, je trouve que c'est une des paroles les plus belles de la Bible. Ouais. Tout ce que nous faisons, tout ce dont tu nous as dotés, tout ce que nous a revêtu de capacité, mais qu'est-ce que l'on va faire autrement? C'est toi qui nous l'as donné, alors tout ce que je peux faire, c'est encore une grâce de Dieu, et c'est toi qui accomplis les choses, c'est pas nous. Alors, fébrilité, agitation, challenge, performance, dernier mot, l'essentiel s'articule autour de 1 Corinthiens 13, l'amour de Dieu, des âmes, et don non de notre succès. Et l'apôtre Paul le dit, et je reviens sur ce passage sans le commenter, mais simplement le rappeler brièvement, où il est dit ces mots, tout simplement. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, » alors là, ça sonne creux, hein, je traduis hein, tout simplement pour faire plus vite. « Quand j'aurai le don de prophétie, » c'est-à-dire les dons qui nous sont laissés, que nous connaissons, « la science, révélation, » mystère de la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à décrocher les montagnes, quand je distribuerai avec beaucoup d'abnégation, philanthropisme, humanisme et altruisme au possible inimaginable, alors à ce moment-là je pourrai faire ça, même quand je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et je vous ai dit, l'amour de Dieu en premier, ultime, unique, l'amour de Dieu, mais pas l'amour de nous-mêmes. Parce que ça peut se mélanger, ça peut se confondre. Oui. Quand j'aurai, quand je parlerai, quand je distribuerai et quand je livrerai mon corps et puis tout le reste, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que nous n'avons pas à nous tromper, Seigneur, dans tout cela. Et c'est pour ça que nous nous tenons tous les jours devant toi pour te demander que tu nous donnes de viser juste. Le mot péché a cette signification, c'est rater la cible. Et nous croyons que dans le monde chrétien, quel qu'il soit, eh bien, la cible a souvent été ratée. Et derrière des fausses doctrines, derrière des missions d'une façon ou d'une autre, d'envergure, voire même mondiale, internationale, si véritablement il y a toi qui peux en juger, nous n'avons pas le droit de juger. Mais une chose qui est certaine, c'est que les hommes sont capables de faire beaucoup de choses. Ils sont capables de gravir des sommets. Ils sont capables même de décrocher la lune, s'ils le pouvaient. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous voulons te demander, Seigneur, que notre pensée, notre esprit soit pas la performance, la concurrence, la comparaison, mais que notre démarche soit tout pour notre Dieu, tout pour Jésus-Christ et pour sa gloire. Seigneur, nous vivons dans un monde qui est certainement beaucoup plus difficile que les frères et les sœurs qui ont vécu il y a 50 ans, 100 ans et à travers tous les siècles, parce qu'il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. À travers Père éternel, toutes sortes de supports, toutes sortes de comparaisons à faire, toutes sortes de moyens. Mais Seigneur, le moyen par excellence, ce que tu nous as donné, c'est pas un moyen, c'est une personne, c'est l'action du Saint-Esprit. Et c'est Seigneur, lui laisser toute la place et nous, pour nous, eh bien, vivre le renoncement tous les jours. Alors, c'est vrai que nous le savons, Paul l'a bien concrétisé, quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Alors merci Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, et tu leur donnes de bien comprendre que la réalité, Seigneur, d'aujourd'hui, de demain, eh bien, elle repose sur Jésus, notre foi en Jésus, notre espérance qu'il nous aide, qu'il nous aidera, et qu'il nous donnera, Père éternel, d'être rempli de ce sentiment agapé, l'amour divin, celui qui descend du ciel pour le répandre sur la terre. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.